Bonjour tout le monde. Sophie et moi sommes vraiment contents d'être de retour, d'être parmi vous, de regagner une vie normale. Et donc, on parlera de nous une autre fois. Mais donc, la prochaine fois, tu auras aussi des images. Tu vas monter quelque chose. On mettra. Tu veux que David amène son projecteur ou tu mets sur l'écran de téléphone, télévision?
Télévision.
Télévision. Ok. Prochaine fois. Prochaine fois. Ok. Donc, venez nombreux hein, de voir ce qui s'est passé à la colonie. Ok. Donc, nous allons voir pendant quelques semaines des psaumes. Pendant l'été, au moins une partie de l'été, je vais simplement ouvrir des psaumes. Là, aujourd'hui, c'est psaume 146. Psaume 146, 46, 47, 48, 49 et 150, ils tous commencent avec Alléluia. Alléluia et Yah, donc Yah c'est Yahvé, c'est Jéhovah ou c'est l'Éternel. Donc ça veut dire louer l'Éternel. Okay? Chaque psaume jusqu'à la fin du livre commence avec cette ce mot, louer l'Éternel. Et donc, ce que nous allons voir à travers ce psaume, c'est que Dieu nous invite, ou même nous incite, à témoigner. Il nous incite à témoigner. Si vous voulez voir plus de gens se convertir à Jésus, ou si vous voulez voir plus de monde venir à l'Assemblée, il faut en parler. C'est ça le message dans psaume 146. Il faut parler de Dieu, il faut parler de ses bienfaits. Donc ce mot « aller » ou « allélu », c'est « aller halal », c'est presque comme « halal », c'est « halal ». Mais en verbe, c'est « allélu » et « ya ». Ce verbe, ça veut dire « louer », « louange ». Et signifie à haute voix. Ça se traduit même célébrer. Donc vous allez dans une fête pour célébrer quelque chose et vous n'allez pas chuchoter. Vous allez dire, oh mais c'était formidable. Hein? Étienne, en son entreprise, ils ont terminé un projet. Eh bien, ils ont fait une fête. Ils ont grimpé dans les arbres et après ils ont allé dans un restaurant et ils ont vraiment célébré, fait la fête, et c'était haute voix. Et c'est ça, Alléluia, c'est haute voix. On ne peut pas donner témoignage comme ça. Ok? Donc on veut qu'on témoigne. On va voir à travers le chapitre, donc 146, louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. On s'arrête là. Donc on voit en premier, je louerai. Donc c'est dans le sens, je vais le faire. Il n'y a pas de question, c'est à moi, je vais louer l'Éternel. Et dans la phrase, il dit donc, je louerai ou je vais louer l'Éternel. Aussi longtemps que je suis vivant, je vais parler de Dieu. Je vais rendre témoignage de Dieu à travers toute ma vie. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Alors là, on voit un petit peu l'idée que c'est pendant la vie. Mais on voit aussi qu'après la vie, on va continuer à louer l'Éternel. Il est l'Éternel, on va chez lui. Hein? Jésus nous prépare une place dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Ah ben là-bas, on va continuer à rendre témoignage de tous les bienfaits que Dieu nous a fait pendant notre temps terrestre. Je voulais dire... Ah oui, quand il dit « mon âme loue l'Éternel », ça c'est une... comme un commandement. Mon âme, je m'adresse à mon âme, à moi-même. Donc le mot âme ici, ça signifie tout mon être. Il dit mon âme, moi, Billy, loue l'Éternel. Je me dis à moi-même, il faut que moi, je loue l'Éternel. Donc, premièrement, je vais le faire, et après, je vais m'efforcer de le faire. C'est ça qu'il dit ici. Bien. Donc, c'est ça. On doit louer à haute voix l'Éternel. Mais il y a un problème. Comme il y a toujours des problèmes. Et le problème, c'est dans le verset 3 et 4. Le problème dans le 3 et 4, c'est que trop souvent, on oublie d'avoir confiance en Dieu et on commence à regarder les politiciens, les gens religieux, l'argent, le banquier, plein d'autres choses. Et on met notre confiance dans ces choses terrestres, comme si ça allait durer. Mais qu'est-ce que dit la parole? Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Ils ne peuvent pas vous sauver, même s'ils promettent. Alors oui, je vais vous délivrer, promettre plein de choses. Il dit, leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leur dessein périssent. Donc ils peuvent tous promettre. Eh bien, un jour, ils vont mourir, tous ces grands. Hein? Comme le tour de Babel, quand il y a un grand qui dit, « Oh non, non, on ne veut pas suivre Dieu, on ne veut pas se disperser, tiens, on va faire un tour. » Comme ça, on peut monter au ciel. Ils n'ont pas arrivé. Ça ne marche pas, le ciel, c'est trop loin. OK? Eh bien, tout le projet était détruit. Hein? Et on va tous mourir. Tous les grands, tous les petits, c'est une des choses qui est certaine dans la vie. Okay? Donc, on ne doit pas avoir notre confiance dans les grands. Et Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit l'un, soit l'autre, mais pas deux. Donc, il veut qu'on serve Dieu. Dieu est notre maître, non pas l'argent, non pas les autres choses. Toutes ces autres choses sont des faux espoirs. Ah oui. Que ça soit dans la religion ou dans les économies et tous les trucs, on a plein de faux espoirs, mais tout cela n'est que passager. OK? Donc on doit garder ça parce que le psaume nous enseigne que l'Éternel est éternel, qu'il ne change pas, il est à toujours. Donc les hommes viennent et vont, ça va, ça passe. Mais Dieu ne change pas, et c'est ça qu'on va lire maintenant. Verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Et on va lire aussi le verset 10. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Donc, le point, c'est que on peut compter sur Dieu. Si vous voulez être heureux dans cette vie, il faut compter sur Dieu. Le verset 10 dit que Dieu règne éternellement. Il n'est pas là un jour et puis il va mourir et puis un autre Dieu va prendre sa place par la suite. Ce n'est pas comme ça pour Dieu. Dieu, il était toujours Dieu, il sera toujours Dieu. Il est donc fidèle. Il est toujours lui-même. Il dit que son règne subsiste, c'est-à-dire ça continue. Il n'y a pas de changement. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu que le Nouveau Testament. C'est le même. Sauf pour une petite chose. Dieu s'est fait homme. Quand il était homme, il est mort sur la croix pour tous nos péchés. Il est ressuscité pour montrer la victoire. Il est remonté au ciel. Maintenant, Dieu, il est dans la capacité de bénir. Il veut bénir. Il n'a plus besoin de condamner, parce que la condamnation est tombée sur l'agneau de Dieu. Ceux qui croient en Jésus, Dieu les pardonne, c'est fini. Et Dieu veut bénir, donc bénir, c'est rendre heureux ceux qui croient en son Fils. Donc, on a lu dans le verset 5, « Heureux, celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Donc, premièrement, c'est l'idée que Dieu peut vous secourir. Mais si on veut que Dieu nous secoue, eh bien, ça veut dire qu'il y a un problème. Dieu ne va pas venir en aide s'il n'y a pas de problème. S'il n'y a rien, Dieu ne peut rien faire. Donc, on a plein de choses dans la vie. C'est normal. On a des inquiétudes, on a des soucis, on a des maladies, on a des chômages, on a ceci, on a cela. Et on dit, au secours! Et Dieu dit, d'accord. Mais quand tout va bien, oh merci Dieu, tout va bien, et puis on va peut-être même oublier de parler, de penser à lui, quand tout va bien. Ah, c'était l'habitude d'Israël dans l'Ancien Testament. Quand Dieu bénissait et tout allait bien, ils entraient dans toute une tas de saleté, de pratique et tout ça. Ils oubliaient Dieu. Alors Dieu envoyait un petit... Hein, des guêpes ou quelque chose pour les piquer, pour les rappeler que Dieu est là. Et il faut toujours demander à Dieu sa bénédiction. Donc, Dieu peut vous secourir. Si vous avez des difficultés, c'est normal. Il ne faut pas dire, mais pourquoi Dieu? Ben, c'est normal, parce qu'il veut vous aider. C'est normal. OK? Et puis, il y a l'autre mot là, espoir. Qui met son espoir en l'Éternel. Donc, ce mot espoir signifie qu'il y a un meilleur avenir possible. L'espoir, c'est quelque chose que vous n'avez pas. J'espère quelque chose. OK? J'espère perdre mon travail. Bon, ça, c'est pas... ça marche pas comme ça. Hein? Mais si vous avez un travail et le salaire n'est pas suffisamment pour ce que vous souhaitez dans la vie, ben vous souhaitez, vous avez l'espoir de meilleur travail par la suite qui donne un meilleur salaire pour que vous puissiez réussir autrement. OK? C'est l'idée. Donc, on va relire le verset. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Donc, secourir, l'avenir peut être mieux. Donc, si vous êtes battu, si vous êtes en difficulté, regardez Paul et Silas. Ils étaient battus et emprisonnés. Et au lieu de lamenter et pleurer, au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient. Et Dieu les a délivrés. Hein? Donc, je voudrais lire dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, juste quelques versets, on ne va pas expliquer, mais simplement lire. On va lire versets 1, 2, 4 et 10. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1, 2, 4 et 10. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit... Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Au verset 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. On va sauter au verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Souvenez de Paul, hein, en prison. Attristés et toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Hein, ce sont des vérités. Parce qu'on est enfant de Dieu. Donc le point ici, c'est que, quoi que soient les circonstances, vous devez, et donc je vous exhorte de le faire, maintenir votre confiance en Dieu. Il peut intervenir. Il peut intervenir dans votre situation, alors que ce soit lente, que ce soit rapide, que les choses soient insupportables, entre guillemets. Ben, c'est à Dieu de décider quel est le bon moment. faut pas perdre courage, il ne faut pas perdre confiance. C'est Dieu qui peut et qui va intervenir selon sa volonté au moment qu'il est parfait. Dans les autres versets de ce psaume, donc c'est les versets 6 à 9, on trouve plusieurs raisons pour lesquelles vous devez toujours compter sur Dieu. Donc on va passer le reste du temps à voir ces quatre versets. Je vais les lire puis je vais revoir. Psaume 146, verset 6. Donc je viens de lire le 5, je vais le relire. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Pourquoi? Ok, j'ajoute le mot. Pourquoi? Voilà la raison. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. OK? On va revoir ces choses-là. Ce sont des raisons de garder votre confiance en Dieu. Verset 6. Parce que l'Éternel est le Dieu créateur. Gardez votre confiance en lui. Il a fait, il a créé les cieux, la terre, la mer. Ça veut dire qu'il a tout fait. Il n'y a pas un autre Dieu qui est entré par un autre côté pour faire ceci et cela. Dieu a tout fait. Et nous pouvons lire dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, ce que j'essaie de voir dans ces quelques versets qui viennent, c'est quelques rapports avec Jésus. Okay? Donc, première chose là, c'est que le Créateur, c'est le Seigneur Jésus. Et le fait, c'est que si nous avons quelques difficultés, si nous ne sommes pas fidèles à Dieu, eh bien Dieu, il reste fidèle à lui-même. Il reste fidèle à sa création et il reste fidèle à nous. Verset 7. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. Je vais lire le partie 1 pour le verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. OK? Donc, on va regarder dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Et on va lire verset 18 à 21. Luc 4, verset 18 à 21. Donc Jésus, il s'est rendu à Nazareth, il entre dans la synagogue, on lui donne le texte de la parole, le rouleau d'Ésaïe. Jésus ouvre à ce passage dans l'Ancien Testament. Où il a lu, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'est assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui, sur Jésus. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ah ben, c'est quoi l'accomplissement de l'Écriture? Ah ben, c'est Jésus. Dieu avait toujours promis depuis avant la création, après le péché, et à travers l'Ancien Testament, qu'il allait venir, qu'il serait le sauveur. Jésus, ça veut dire Jéhovah sauve, l'Éternel sauve. Et il est venu. Donc Jésus a dit, ben voilà, je suis là. C'est moi qui ai votre secours, votre délivrance, c'est moi. Donc il a lu ça dans leur présence. Après, donc, il dit dans le psaume, il fait droit aux opprimés, comme on vient de lire dans Luc. Il donne du pain aux affamés. Et n'est-ce pas que deux fois, Jésus a fait du pain et des petits poissons aussi, pour une fois 4000 hommes et une fois 5000 hommes. Il délivre des captifs, donc en particulier, il nous délivre de nos péchés. C'est le plus grand de nos captivités, c'est nos péchés. Au verset 8, il dit qu'il ouvre les yeux des aveugles, chose que seul Dieu peut faire. Donc, en entrant et en sortant de la ville de Jéricho, Jésus a guéri les aveugles. Encore verset 8, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. Donc, il y avait une dame qui était, une dame âgée qui était très courbée, et Jésus l'a redressée en disant qu'elle avait été possédée d'un esprit. Et il dit que l'Éternel aime les justes. Alors c'est déjà bien de voir que, déjà, hein, depuis longtemps dans l'Ancien Testament, Dieu nous aime. Hein, comme Jean 3,16, Dieu nous aime à tel point hein, qu'il a envoyé son Fils, etc. N'est-ce pas? Dieu nous aime. Et les justes, c'est quoi? Ben, seul Dieu est juste. Hein? Donc, quelque part, juste dans la pratique, nous, on est justifiés en Jésus-Christ et Dieu veut qu'on agisse en tant que juste. Okay? On est purifiés. On n'est pas pur. Jésus est pur. Il nous purifie. Donc, Dieu aime ceux qui sont justifiés, ceux qui sont purifiés et il veut qu'on mette ça en pratique. OK? Et puis, aussi, il a dit... dans cette idée d'aimer les justes, on a vu dans la vie de Jésus, dans les prédications, les paroles, plein de critiques contre l'hypocrisie et les gens avec les vies tordues. Et au verset 9, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Donc, il protège les étrangers. Les étrangers comme André, comme Billy, comme plusieurs parmi nous, les étrangers. Mais la réalité, c'est que la parole nous dit que nous sommes, tous les croyants sont les voyageurs et les étrangers sur la terre. Et Dieu nous protège, selon ce verset. Dans 1 Pierre 1, 17, il dit aussi que Dieu veut qu'on agisse d'une certaine manière pendant notre pèlerinage. Pèlerinage parce qu'on n'est pas ici pour toujours. On sera dans les lieux célestes pour toujours avec le Seigneur Jésus. Et il dit aussi qu'il soutient les orphelins et les veuves. Donc, le seul verset que j'ai trouvé pour cela, c'est que Jésus a dit, « Je ne vous laisse pas orphelins. » Il a dit, je vais tout faire pour vous sauver, et puis je m'en vais. Mais je ne vous laisse pas orphelins, je ne vous abandonne pas. Dieu reviendrait, et c'est pour cela qu'il a dit qu'il envoie le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ qui est en chacun d'entre nous. Et les veuves, donc c'est très important que les chrétiens soutiennent les orphelins et les veuves. Et on voit dans Actes chapitre 6, verset 1, c'était le premier problème dans l'Église, que voilà, certaines veuves, on ne donnait pas la nourriture. Ah ben, elles avaient la faim. Et donc Dieu agissait à travers les chrétiens pour pourvoir pour les besoins des veuves. Et Jacques le dit carrément dans Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et la dernière chose dans la liste, dans les sujets pour lesquels nous pouvons nous confier à Dieu, c'est que Dieu renverse la voix des méchants. Et il y en a des méchants. Heureusement, on n'est pas toujours, même pas très souvent, entouré des méchants. Hein? Mais ça existe. Et je pense qu'on peut relire Psaume 1 à ce sujet. Donc, moi, j'ai dans le titre les deux voix. OK? Les deux voix, c'est les bonnes voix et les mauvaises voix. Psaume 1. On va lire tout le psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Donc, tout à l'heure, on a lu, il ne faut pas avoir confiance dans les hommes parce que leur souffle s'en va. Donc, moi, je pense en même temps à cette chose-là. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et la seule chose qu'on n'a pas vue dans ce psaume 146, c'est la dernière petite phrase qui est un seul mot, louer l'Éternel. Donc encore, on a commencé le psaume avec Alléluia et on termine avec Alléluia, louer l'Éternel. Donc, le point, c'est que Dieu est fidèle dans tous les domaines que nous avons vus dans ces versets. Vous pouvez compter sur lui. C'est ça le point. Vous pouvez compter sur Dieu. Quoi que soient les circonstances dans lesquelles vous trouvez, vous pouvez louer l'Éternel. Vous devez rendre témoignage. Vous étiez dans telle circonstance, Dieu vous a exaucé. Et vous ne dites rien à personne. Quel bénéfice. Pourquoi Dieu va vous aider la prochaine fois? Hein? Faut en parler. Louez l'Éternel.